La SLN est dans une phase critique. Une rencontre entre le groupe Eramet, la direction de Dognambo et les syndicats a eu lieu ce matin. Il va falloir réduire les coûts et solliciter les actionnaires. Pierre Frogier interpelle la Première Ministre au Sénat lors des questions au gouvernement. « Nous n'avons pas d'autre choix que de renouer les liens de confiance », affirme le sénateur calédonien. Des travaux de confortement du barrage de la Dimbéa vont débuter. L'objectif est de mettre aux normes françaises l'ouvrage qui date des années 50. À partir de demain, ce sera le Black Weekend, puisque le Black Friday se tient maintenant sur 3 jours en Nouvelle-Calédonie. C'est la 6e édition de cette pratique commerciale qui a fait sa place dans le calendrier. Le squash à l'honneur dans le journal ce soir avec l'Open International BCI qui débute lundi. Laurent Vendée, le président de la section squash de l'Olympique de Nouméa, et Grégory Corigliano, juge arbitre officiel du tournoi, sont nos invités. Et puis nous prendrons bien sûr la direction du Qatar pour les 4 derniers matchs de la première journée de la phase de poule de la Coupe du Monde qui se joue ce soir et demain matin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Mais avant de développer tous ces titres, cet accident qui a fait une victime à Point-d'Imier la nuit dernière vers 2h30 du matin à hauteur de la tribu de Window. Le conducteur du véhicule seul en cause a perdu le contrôle avant de heurter la barrière d'un pont. Si le conducteur n'a été que blessé, cet accident a malheureusement été fatal à sa passagère de 47 ans qui est décédée. Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances du drame. Ce nouvel accident porte à 60 le nombre de tués sur les routes de Nouvelle-Calédonie depuis le début de l'année. Ce chiffre de 60 morts n'avait pas été atteint depuis le triste record de 2014, année au cours de laquelle 67 personnes avaient perdu la vie dans un accident de la route en Nouvelle-Calédonie. Le destin de la SLN va se jouer dans les mois qui viennent. C'est le sentiment qui domine après la longue séance de discussion qui a commencé tôt ce matin à Dognambo. Après une première réunion avec les cadres de l'entreprise, la PDG du groupe Eramet, Christelle Bory, qui est arrivée lundi sur le territoire, a longuement rencontré les syndicats de la SLN. Pas de commentaire de sa part à la sortie de la réunion, si ce n'est cette confirmation. La situation est tendue.
Je n'ai pas de déclaration à faire. Aujourd'hui, on est dans des réunions de travail. On a besoin de travailler avec tout le monde. On a besoin de trouver des solutions ensemble. Donc, je n'ai rien de plus à dire. On travaille. La situation est tendue. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Encore une fois, on travaille.
À la sortie de cette réunion, c'est donc le directeur général de la SLN, Guillaume Verschef, qui s'est exprimé pour confirmer à son tour que la situation de la SLN est jugée critique.
Depuis le début de la semaine, nous avons eu énormément de réunions avec les interlocuteurs institutionnels, les employés, l'encadrement. La situation de la SLN est effectivement extrêmement critique. Et donc, toutes ces réunions de travail ont pour but d'identifier d'abord les enjeux, pourquoi on est dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour y arriver. Donc, il y a énormément d'actions qui sont menées au sein de l'entreprise pour économiser au maximum et se concentrer sur les objectifs de production et de trouver des solutions en termes de financement à très court terme compte tenu de la situation qu'on risque de rencontrer en tout début d'année prochaine. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la SLN, comme d'ailleurs l'ensemble des métallurgistes en Nouvelle-Calédonie, sont frappés de plein fouet par une crise énergétique majeure et une baisse des cours du nickel qui fait que toutes les activités métallurgiques sont en fait extrêmement déficitaires depuis au moins le milieu de l'année. Nous consommons quasiment 2 milliards par mois de trésorerie compte tenu de cette hausse des coûts de l'énergie. Donc il faut trouver des financements à très court terme pour éviter la catastrophe en début d'année, mais aussi des solutions à moyen long terme pour trouver une alimentation électrique à des coûts compétitifs.
Car parmi les charges qui pèsent considérablement, vous l'avez entendu, sur les résultats de la SLN, il y a le prix de l'électricité notamment qui a bondi de 4 francs à 22 francs du kilowatt, d'où l'idée de réduire tous les coûts pour se concentrer uniquement sur la production.
On avance beaucoup, nous, sur un plan en interne avec l'ensemble de l'équipe de direction et l'ensemble des employés pour se focaliser sur les dépenses qui sont absolument nécessaires à la production et seulement celles-là, de façon à économiser au maximum nos ressources pour arriver à passer les mois qui viennent.
Est-ce que ça veut dire que vous prévoyez des réductions d'effectifs ou même des fermetures de sites ?
Alors, en dehors du sujet de Kwawa qui doit être réajusté, aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est d'utiliser au maximum l'appareil industriel dont nous disposons, avec toutes les ressources humaines dont nous disposons. Et ce que nous allons faire, effectivement, c'est de cesser de nous focaliser sur des projets qui sont à plus long terme, qui sont des projets de développement rentables, bien sûr. Mais en attendant, faisons déjà les volumes de production avec les moyens industriels dont nous disposons. Et avec ça, nous allons pouvoir redresser la situation. On le voit déjà sur les centeniers, les niveaux de production sont plutôt bons en ce moment. À l'usine, encore quelques limitations électriques pendant 2 semaines et on devrait tourner plein pot.
Pour autant, il faudra aussi résoudre les difficultés de trésorerie de l'entreprise puisque la dernière partie du prêt de l'État a été consommée. Il va donc falloir discuter avec les actionnaires de la SLN, reconnaît Guillaume Verschave.
Toutes les options sont ouvertes, mais effectivement, l'ensemble des actionnaires est consulté sur ce sujet. Je vous rappelle, en fait, la SLN a 4 actionnaires, Eramet, la STCPI, Nichin et une action de l'État français. 2 d'entre eux ont déjà fortement contribué au financement de la SLN, c'est Eramet et l'État français. Donc effectivement, les autres actionnaires, on leur posera la question.
Du côté des syndicats, la réunion de ce matin a été jugée plutôt constructive, même si les salariés ne se sentent pas complètement rassurés, souligne Elvis Massé, les porte-parole de l'intersyndicale.
Rassurés, oui et non. On n'a pas eu vraiment d'assurance finale, mais en tout cas, le groupe Eramet veut garder la SLN. Fera tout, en tout cas, pour sortir de la SLN de ses difficultés. On est en difficulté depuis plusieurs années, mais là, vraiment, de fin 2022 et surtout 2023, on sera en très, très grosse difficulté. La réduction des coûts, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on leur a un petit peu reproché. Ils auraient dû avoir lieu déjà il y a un petit moment. C'est un petit peu tard pour nous. On leur avait déjà annoncé, chaque syndicat, en leur disant par les instances, pourquoi vous prenez déjà pas des mesures de réduction de coûts. Bon, on va pas refaire le passé, aujourd'hui on y est. Maintenant, chaque réduction de coûts qu'on pourra faire, sur les achats, sur les prestations, etc., va nous faire gagner mois par mois la survie de la SLN.
Et de son côté, la PDG du groupe Eramet, Christelle Bory, repart demain de Nouvelle-Calédonie. Auparavant, elle aura assisté, comme chaque année, au conseil d'administration de la SLN, qui se tient ce soir, mais ne devrait pas faire l'objet d'annonces majeures. Toutefois, de l'avis de chacun, les semaines qui viennent seront cruciales pour l'avenir de l'entreprise. Et notez que nous reviendrons sur la situation de la SLN demain avec nos 2 invités. Nous recevrons à 7h30 Jean-Jacques Dulost, secrétaire général du CICINC, le syndicat des ingénieurs et cadres de l'industrie, élu au comité central d'entreprise et représentant des cadres au conseil d'administration de la SLN, ainsi qu'Anne-Marie Arbulot-Blondel, sa suppléante. Ce sera donc à 7h30 demain matin sur Radio Rythme Bleu. Nous n'avons pas d'autre choix que de renouer des liens de confiance. C'est la déclaration du sénateur Pierre Frogier qui interpellait la première ministre la nuit dernière pour nous lors de la séance des questions au gouvernement, Jean-François Bodin.
Le sénateur calédonien a interrogé Elisabeth Borne sur le prochain voyage à Nouméa du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et du ministre chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco. Mais il a d'abord rappelé le contexte de cette visite et notamment la convention des partenaires réunie le 28 octobre et la décision de mettre en place des groupes de travail.
Cette initiative est utile puisqu'elle s'inscrit dans le choix que la Nouvelle-Calédonie a fait de rester française. Mais est-elle suffisante? Les référendums de 2018, 2020, 2021 ont non seulement ravivé les tensions, les divisions, mais ont réduit en miettes cette exception calédonienne symbolisée par cette fameuse poignée de main que se sont données Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou en 1988. De partenaires, Madame la Première Ministre, nous sommes redevenus des adversaires. J'en veux pour preuve l'absence des mouvements indépendantistes à cette convention dite des partenaires. Et pourtant, pour élaborer ce projet d'avenir consensuel que vous appelez vous-même de vos voeux, nous n'avons pas d'autre choix que de renouer ces liens de confiance, car notre avenir ne se construira pas sans l'autre ni contre l'autre. Madame la Première Ministre, concrètement, quelles initiatives le ministre de l'Intérieur envisage-t-il de prendre lors de son séjour à Nouméa pour que les 3 partenaires, qu'étaient l'État, les indépendantistes et nous nous retrouvions en confiance?
Merci.
Et c'est le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui a répondu au sénateur Pierre Frogier. Il affirme que le ministre de l'Intérieur va en Nouvelle-Calédonie pour prendre le temps du dialogue et de l'écoute.
Le processus de définition d'un projet pour la Nouvelle-Calédonie, qui consacre sa place dans la République française et respecte ses singularités, est désormais engagé. Si les échanges du 28 octobre ont été denses et fructueux, ils ont été incomplets, vous en avez été témoin, monsieur le sénateur, en raison notamment de l'absence d'une partie des forces politiques. Or, pour que le processus que nous avons engagé aboutisse, toutes les forces politiques calédoniennes doivent y contribuer. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer se rend donc en Nouvelle-Calédonie, accompagné du ministre chargé des Outre-mer, pour prendre le temps du dialogue et de l'écoute, afin que tous les partenaires politiques participent aux discussions dans un esprit de responsabilité et de consensus. Dans cette démarche, monsieur le sénateur, le gouvernement sait qu'il pourra compter sur votre engagement personnel, sur votre capacité à nouer le dialogue avec les responsables indépendantistes.
Le gouvernement sait qu'il pourra compter sur votre engagement personnel et votre capacité à nouer le dialogue avec les responsables indépendantistes, a donc déclaré Olivier Véran à Pierre Frogier. Il a ensuite détaillé les groupes de travail qui seront installés à Nouméa à l'occasion de ce voyage ministériel.
Et notez que demain midi, nous évoquerons également la prochaine visite de Gérald Darmanin et Jean-François Carenco avec une interview de Sonia Backès qui sera l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Qu'attend-elle de la visite des ministres de l'Intérieur et des Outre-mer? Sur quoi ce déplacement peut-il déboucher? Et quelle peut être la suite du processus après la convention des partenaires réunis le 28 octobre dernier à Paris? Sonia Backès, invitée Transparence, c'est donc à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Et justement, voici notre question du jour. La visite de Gérald Darmanin et de Jean-François Carenco va-t-elle, selon vous, permettre de rétablir la confiance entre les indépendantistes et l'État? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Je vous rappelle la réponse à notre question d'hier. 71% des auditeurs d'RRB qui sont exprimés par SMS disent qu'ils ne trouvent pas normal que les fonctionnaires territoriaux demandent à bénéficier des mêmes revalorisations salariales que les fonctionnaires d'État. Ils sont 29% à trouver cela normal. Il est 17h57 précisément. Dans un instant, la suite de l'actualité.
Retrouvez la féerie de Noël avec la ville de Nouméa à partir du jeudi 1er décembre.
Spectacle d'artistes locaux et internationaux au kiosque à musique. Fête de la lumière et animation de Noël, place des Cocotiers. Feu d'artifice sur l'îlot Sainte-Marie.
Savourez la magie de cette fin d'année tous les jours du 1er décembre 2022 au 1er janvier 2023.
Programme complet sur nouméa.nc.
Ville de Nouméa, partageons ensemble la féerie de Noël.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. Info soir, Gilles Ménage.
Des travaux de confortement du barrage de la Dimbéa vont débuter. L'objectif est de mettre aux normes françaises l'ouvrage qui date des années 50 et qui fournit 15 millions de mètres cubes d'eau par an à la ville de Nouméa, à l'usine de Donyambo et une partie de Dimbéa, Jean-François.
La réglementation impose une protection contre une crue millénale avec des marges suffisantes, c'est-à-dire 2360 mètres cubes par seconde. Aujourd'hui, le barrage de Dimbéa est conçu pour une crue de 1400 mètres cubes par seconde. Les travaux doivent donc assurer la sûreté de l'ouvrage de matière pérenne. Une crue millénale, ce n'est pas une crue qui se produit tous les 1000 ans, mais un niveau de débit qui a une chance sur 1000 de se produire au cours d'une année. Cet important chantier va durer 2 ans. Sur cet ouvrage de 38 mètres de hauteur et de 104 mètres de long, la première phase jusqu'en avril 2023 consistera principalement à la réfection de la piste d'accès pour permettre aux engins d'accéder au futur chantier, puis les équipes s'attaqueront à l'amélioration de l'évacuation des crues. Pendant toute la durée des travaux, la distribution d'eau se fera normalement. Il y aura éventuellement des perturbations avec des fermetures de pistes d'accès au barrage notamment. Vous retrouverez des informations sur le site du gouvernement, sur celui de la province, des villes de Nouméa et de Dimbéa. L'accès à la piste n'est pas recommandé en raison du risque amiante et du trafic d'engins de chantier. La piste nord ne sera pas impactée et reste à privilégier pour les usagers du parc provincial de la Dimbéa.
Dans le reste de l'actualité à Ouégoua, la mairie organisait ce matin un temps d'accueil au profit des deux nouveaux médecins arrivés dans la commune. L'occasion pour les professionnels de santé de rencontrer les élus municipaux et provinciaux, les coutumiers ou encore les gendarmes et de faire le tour des infrastructures. Écoutez les précisions du maire de Ouégoua, Barnabé Pebouamène.
Comme on a fait dernièrement, parce qu'on a eu déjà un médecin qui a séjourné pendant un mois chez nous, on a fait le même protocole. C'est pour répondre aussi aux pénuries de médecins qu'on a décidé de faire les choses de cette manière-là. Et après, on fera le terrain après pour l'état des dispensaires pour la téléconsultation. Là, on a actuellement 2 médecins. D'après les retours des infos, ils seront là pour une période de 6 mois. La population en attente, depuis qu'on a qu'un seul médecin, il n'y a plus de tournée de médecins dans les tribus parce que ma commune, elle est bien étendue. Ça veut dire qu'on a 2 secteurs où il n'y a plus de permanence. Et avec les 2 médecins, ben on retrouvera le cycle normal.
Après l'accueil en mairie, la délégation s'est rendue au CMS de la commune pour découvrir le nouveau dispositif de téléconsultation, puis au dispensaire de Bondé et de Paimboisse.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Coumac, c'est le 98.
Les commerçants attendent les Calédoniens nombreux. À partir de demain, ce sera en effet le Black Weekend, puisque le Black Friday se tient maintenant sur 3 jours. Une tradition venue des États-Unis où d'importantes réductions sont proposées aux clients le vendredi suivant Thanksgiving. En Nouvelle-Calédonie, c'est la 6e édition de cette pratique commerciale qui a fait sa place dans le calendrier. Renan Delay est secrétaire du syndicat des commerçants.
La première opération qu'on avait faite en 2017 avait très bien fonctionné et depuis, ça n'a cessé de progresser. Comparé aux soldes, les soldes sont sur une durée de 4 semaines, plutôt sur une logique d'écoulement des stocks invendus. C'est une opération qui permet ensuite de mettre en place la nouveauté. Le Black Friday, c'est une opération promotionnelle coup de poing, un week-end, donc généralement une forte affluence vraiment sur un temps très court. Et la différence, c'est que les commerçants, généralement, vont faire des remises quasiment sur tout. Il peut y avoir des nouveautés remisées, bien évidemment. La majorité des commerçants y participent parce qu'il y a vraiment un intérêt pour eux de pouvoir générer de la trésorerie à l'issue du mois de novembre, de pouvoir bien lancer leur mois de décembre parce que les gens vont venir et voir qu'ils ont justement une offre attrayante dans leur magasin. Ce Black Friday, c'est vraiment le démarrage du mois de décembre qui est le mois le plus important pour un commerçant qui bien souvent peut sauver l'année de certains car il est vraiment générateur de chiffres.
Et c'est la dernière opération de remise avant la fin de l'année. Et les commerçants vont ensuite préparer Noël, bien sûr, dans des conditions pas toujours facile en raison du contexte mondial. Vous en avez parlé avec vos invités, Jean-François, dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu ce midi.
Oui, la bonne nouvelle, c'est que les Calédoniens devraient trouver, à quelques rares exceptions près, les produits phares recherchés pour Noël et les fêtes de fin d'année. Épicerie fine, jouets, livres, maroquinerie, cadeaux d'hiver. Il y aura donc du choix, malgré les contraintes imposées par le fret, qui reste beaucoup plus compliqué qu'avant la crise Covid. Il y aura donc bien ce qu'il faut, confirme David Broussard, membre du bureau du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie.
Pour la fin d'année, il faut se rassurer. On a fait en sorte d'avoir de la marchandise. On a commandé bien en avant par rapport aux autres années pour pallier à tous ces problèmes de fret, de bateau, de retard aussi.
Du côté de la papeterie, de la librairie ou de la maroquinerie, aucun produit ne va manquer à l'appel, nous a dit pour sa part le nouveau directeur général de l'As de Trèfle, Benoît Rubin. Il fallait pour cela anticiper plus que d'habitude.
Ce qui a fait la différence, je pense, d'une enseigne à l'autre, c'est vraiment la capacité d'anticiper les choses, quoi. Nous, on a commencé les négociations en mars. Vous imaginez quand même en mars 2022. Et la finalisation des négos, ça s'est fait jusqu'en mai, juin de cette année, quoi. C'est quand même assez long. Et finalement, les produits, on les a reçus en septembre et début octobre. Donc c'est quand même un processus long, mais on les a reçus plus tôt que l'année dernière, au final, quoi. Mais il n'y a pas eu de problème, je dirais, de production, au final, au global.
Dans le secteur du jouet, les magasins seront bien achalandés, mais certains produits vont quand même manquer à l'appel, nous a dit le gérant de Jouet Club, Didier Laniel.
Le problème qu'il y a eu, c'est surtout pour tout ce qui est électronique, les véhicules radiocommandés, les globes interactifs, tout ce qui avait des puces. Les prix, ils ont flambé. Certains fournisseurs, je peux le citer, le fournisseur Silverlit, qui fait tout ce qui est véhicules radiocommandés, a fait une augmentation de 40%, puisqu'il s'était en totale pénurie, avec les prix qu'ils ont doublé ou triplé pour les puces. Le fret asiatique, où c'est que c'est fabriqué entre la métropole, a été multiplié pour certains par 10. Honnêtement, nous, sur ce genre de produits, tout ce qui est interactif, oui, on a eu un problème d'approvisionnement. Même cette année, les quantités n'ont pas été au rendez-vous de ce qu'on aurait aimé ou ce qu'on a voulu commander.
Face à l'augmentation des coûts du fret notamment, chaque enseigne s'organise évidemment pour atténuer le plus possible l'effet sur les clients. Et puis, il y a les pénuries imprévues. C'est le cas dans l'alimentaire pour les foie gras. Les élevages de canards sont touchés par la grippe aviaire depuis plus d'un an et pas seulement en métropole. Un problème pour Gérald Ita qui travaille les foie gras dans son magasin Nouméa Gourmet.
J'ai eu 40% de stock en moins, je m'estime heureux par rapport à d'autres qui ont rien du tout. Par contre, on a une augmentation de 35% entre la grippe aviaire et puis, même s'il n'y avait pas de marchandises, augmentation de 5% par-ci, 5% par-là avec les augmentations de céréales, avec la guerre en Ukraine. Alors, chose que j'avais pas faite depuis 15 ans, j'avais pas augmenté mes tarifs et cette année, j'ai dû augmenter un petit peu mes tarifs parce que je pouvais pas faire autrement. Je rassure les gens, j'ai pas augmenté de 35%, j'ai juste mis un tout petit peu plus.
Voilà pour ces extraits des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et si vous aussi, chers auditeurs, vous profitiez du Black Weekend pour faire un geste pour les plus démunis, l'occasion d'acheter un petit cadeau et de l'apporter à RRB pour participer à notre opération au cœur de Noël, des cadeaux qui seront distribués, vous le savez, aux familles en difficulté et à leurs enfants parce que la lumière de Noël doit briller dans les yeux de tous. Tout ce que vous porterez à la radio sera donc redistribuée aux plus démunis d'entre nous par nos partenaires, la Croix-Rouge, la Société Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique et la Table ronde. Ils sont mobilisés pour cette chaîne de solidarité, mais tout part de votre générosité sur laquelle nous savons pouvoir compter. Merci à tous ceux qui sont déjà venus à RRB déposer des cadeaux, comme Olivier, par exemple, venu déposer 3 ballons cet après-midi. Chaque geste compte, chaque geste fera un heureux. Merci d'avance, on vous attend à RRB chaque jour, vous le savez, de 7h à 19h. Rappelons que vous pouvez déposer des cadeaux, notamment pour les enfants, quel que soit leur âge, des articles de sport, des produits pour bébés, des produits alimentaires pour améliorer une table de fête et même de l'argent qui nous permettra de compléter les cadeaux pour une famille. Le deuxième temps des assises de l'ASE a débuté ce matin à l'Université de Nouvelle-Calédonie après la journée de lancement à l'auditorium de la province sud le 28 octobre dernier. Ce deuxième temps est consacré à la place de la culture kanak à l'école. Des ateliers étaient organisés cet après-midi. La restitution aura lieu demain matin avant les conclusions demain après-midi. Luther Vujo, le directeur de l'ASE, nous confie ses attentes.
On attend des éléments de réponse. L'important, c'est surtout avoir un espace de débat. Et parce que ces espaces de débat sont présents. Hein. On l'a vu qu'au niveau du conseil consultatif de l'enseignement, il y a eu des débats. Et je trouve ça utile. Et puis nous, on s'interroge sur les causes profondes et qui vont nous permettre aussi d'apporter des éléments de réponse au moment où, dans un an, à l'issue du temps institutionnel que nous traversons, qui est un peu incertain, en espérant que nos élus vont nous donner un peu de plus de certitude hein, sur les formes que prendra l'enseignement demain, et puis selon les institutions, eh bien, à part de là, nous serons en force proposition pour dire que peut-être qu'il y a cet élément-là qui n'a pas marché et peut-être qu'il faudrait réinterroger.
Voilà, et le troisième et dernier temps de ces assises de l'enseignement de l'ASE devrait avoir lieu en avril 2023. Ça sera au lycée Doneva de Wailou. Dans l'actualité culturelle, ce vernissage en ce moment même de l'exposition Sensation 6 artistes à la rencontre de William Coste, c'est au Château Hagen, une exposition tout à fait inédite qui permet de valoriser des objets de la collection Coste et de mettre à l'honneur des artistes de différentes disciplines artistiques. Une exposition qui ouvrira ses portes au public demain jusqu'au 24 juin 2023 au Château Hagen à la Vallée des Colons.
À Radio Rythme Bleu, 18h07.
L'actualité dans la région Pacifique avec les difficultés de l'économie néo-zélandaise. La Banque centrale du pays a annoncé la 9e hausse consécutive de son taux d'intervention et prévoit que le pays devrait entrer en récession l'année prochaine. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le gouverneur de la Banque centrale, Adrian Orr, a indiqué dans un communiqué que cette hausse de 75 points de base a fait passer le taux d'intérêt de 3,5 à 4,25%. Il a prédit que ce taux atteindra même les 5,5% l'an prochain. Le taux de l'inflation, qui est aujourd'hui de 7,2%, passera quant à lui à 7,5% durant le dernier trimestre de cette année et s'y maintiendra pendant les 3 premiers mois de l'année prochaine. Notre objectif, a indiqué Adrian Orr, est de ramener ce taux de l'inflation dans la fourchette des 1 à 3%. Il a enfin prédit que la Nouvelle-Zélande sera en récession l'an prochain, ce qui est loin de constituer une bonne nouvelle, tant pour les ménages kiwis, dont le pouvoir d'achat va se contracter davantage encore, que pour le gouvernement travailliste de Jacinda Ardern, dans la mesure où les Néo-Zélandais se rendront aux urnes en fin d'année prochaine dans le cadre d'élections générales qui risquent fort d'être défavorables à la gauche. À Sydney, Jean-Pierre Dajac, RRB.
Il est 18h passé de 9 minutes. Dans un instant, toute l'actualité sportive.
Les équipes sont sur le terrain. Place aux hymnes nationaux.
Vive le foot d'hiver, mouiller le maillot et faire le show quand on sort du vestiaire.
Préparez-vous à passer Noël en équipe avec Canal+. Vivez la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en intégralité sur beIN Sport. Disponible avec Canal+. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur canalplus-calédonie.com.
Le Black Friday, c'est chez Trouve-Tout du vendredi 25 au dimanche 27. Moins 20% sur tous les jouets de Noël. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges à prix fou. Moins 20% sur les jouets dans vos 8 magasins Trouve-Tout préférés. Ducos, Gallieni, Magenta, Pont des Français, Apogotti, La Foix, Coney et Bourail.
Sur RRB, c'est net avec Morgane Boucher. Ce qui fait le buzz en Calédonie, les nouvelles applications, l'actualité du net.
C'est net avec Canel. Canel vous propose ses trois offres tout compris, internet, télévision, téléphonie, modem et boîtier TV à partir de 4 990 francs par mois.
C'est net du lundi au jeudi à 16h20 dans le Tout Info. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Gilles Ménage.
Et c'est le squash qui est à l'honneur dans le journal ce soir avec la présentation de l'Open International BCI qui débute lundi. Morgane Boucher.
Et oui, pour en parler, nous sommes avec Laurent Vendée, bonsoir.
Bonsoir.
Président de la section squash de l'Olympique de Nouméa qui organise l'événement. Et Grégory Corigliano, bonsoir.
Bonsoir.
Juge arbitre officiel du tournoi. Alors Laurent Vendée, c'est un retour pour l'Open BCI de international après 2 ans d'absence.
Bah oui, malheureusement, on a souffert, hein, comme tous les sports en Calédonie, et notamment tous les événements internationaux. L'année dernière, on avait programmé un tournoi dont la date était en plein confinement, donc on n'a pas pu le faire. L'année précédente, on avait fait un tournoi sans les internationaux, donc ça revenait à un Open local. Et là, on est content parce qu'on va retrouver nos invités australiens qui sont d'un très bon niveau et qui sont très sympas. Donc, on est super enjoué, on est très content à la fois parce que le tournoi démarre lundi, puis c'est notre gros événement de l'année. Et à la fois, on a l'occasion d'en parler sur votre antenne. On parle du squash, qui est notre passion, donc on est super content.
Alors, vous avez parlé des joueurs australiens. Ils seront 4 pour ce tournoi BCI. 4 membres de l'équipe U19 qui ont participé récemment au championnat du monde. Il y aura du niveau
la semaine prochaine. Ah, ça devrait être spectaculaire. Je pense qu'on va avoir du beau squash, du bon squash. C'est des jeunes, ils ont l'habitude de jouer, ils se connaissent bien. Et ils ont l'habitude de participer à des tournois internationaux où ils rencontrent les Français, puisque notamment ils ont rencontré Brice Nicolas, qui est notre champion local, qui a fait les championnats, et ils se connaissent. Donc oui, ça va être du très beau squash toute la semaine.
Grégory Corigliano, vous êtes plus en charge de la partie juge-arbitre, je le disais, pour l'organisation. Il y a beaucoup de matchs sur un tournoi comme ça. Faut être dans les temps, dans le timing. C'est une gestion.
Il y a effectivement, si on compte tous les matchs, il y a près de 200 matchs sur la semaine. Oui, effectivement, et 32 matchs par jour. C'est un tableau de 64. Alors il y a un pré-tour vendredi. Il y aura 4 matchs. Les 4 gagnants pourront rentrer dans le tableau principal. Et après, les 4 perdants vont quand même jouer des matchs de classement en poule lundi, mardi, mercredi.
Alors, en parallèle de ces 4 joueurs australiens aussi, il faut parler des jeunes calédoniens. Beaucoup aussi, 8 jeunes inscrits, c'est une belle affluence.
C'est une belle affluence et c'est les sports calédoniens. Et ils se préparent pour le déplacement au mois de décembre du 16 au 21 en Australie à Sydney pour les Oceania Juniors. Donc c'est un très bon tournoi pour se préparer pour cette compétition.
Alors des jeunes qui ont en moyenne, vous l'avez dit, 14 ans, c'est jeune et c'est participer comme ça à un tournoi international, c'est une chance pour eux finalement ?
Oui, tout à fait. Et en plus, ils ont pas mal à faire. J'espère qu'ils auront l'occasion de jouer avec un Australien, mais on va aussi faire en sorte qu'au niveau de l'école de squash, ils puissent se rencontrer et pouvoir taper la balle avec les meilleurs Australiens.
Alors Laurent Vendée, il y a également les têtes d'affiche calédoniennes quand même. Il y a des bons joueurs ici en Nouvelle-Calédonie, on les connaît. Ils auront fort à faire, on le sait, mais quand même ils seront présents.
Oui, oui, puis en plus ils sont super contents de rencontrer des joueurs qui jouent bien au squash. Donc Nicolas Mastet, malheureusement Gaël Gosse aura quitté le territoire, donc c'est dommage parce qu'il est champion en titre. Et c'est vraiment dommage qu'il participe à ce tournoi. Mais il y a d'autres bons joueurs, Nicolas Masnet, Nicolas Faure, Laurent Guépy, Jérémy Pascal. Enfin, on a plein de bons joueurs qui vont se défoncer pour ce tournoi comme ils le font dans chaque tournoi et encore plus au BCI, ouais, c'est clair.
C'est un objectif pour eux, j'imagine, même si les Australiens sont peut-être au-dessus cette année, même s'ils sont jeunes, les internationaux.
C'est difficile sur papier. Moi, je ne les ai pas vus jouer dans les conditions sur nos terrains avec la chaleur. Donc c'est vrai que tout peut arriver sur un match. C'est vrai que sur le papier, pour nos joueurs calédoniens, rentrer en demi, ça va être un exploit. Donc à eux de se battre pour rentrer en demi. On va avoir des quarts de finale, en tout cas, qui vont être somptueux, je pense.
Alors, on parlait des jeunes, mais aussi des joueurs un peu plus âgés. Il y a une moyenne d'âge assez élevée, quand même, pour ce tournoi.
Bah, étonnamment, on a parlé tout à l'heure des jeunes. Donc, j'ai 4 joueurs inscrits dans ce tournoi qui ont 13 ans. Et j'en ai 3 qui ont plus de 60. Voilà, pour une moyenne d'âge de 37 ans sur les 68 inscrits. Donc, voilà, ça donne quand même... un sport aujourd'hui, un tournoi de joueurs ou de joueuses plutôt matures. Voilà.
Et donc, ça commence dès demain, vous le disiez, Grégory, parce qu'il y a les qualifications. C'est des joueurs plutôt jeunes ou
Alors non, c'est pas du tout des jeunes. C'est des joueurs débutants qui profitent de l'occasion pour s'inscrire au tournoi BCI. Ce tournoi BCI, il permet justement d'avoir énormément de matchs et de faire tous les matchs de classement. Donc, c'est une occasion pour eux et c'est des néophytes. Parce qu'ils viennent de prendre leur licence et ils vont pouvoir participer à ce tournoi-là. Donc ils sont tous très heureux.
Eh bien, on invite les spectateurs, évidemment, à venir vous voir à partir de lundi, même dès demain, pourquoi pas, à la salle Picou pour profiter du spectacle.
On peut préciser que l'entrée est gratuite, évidemment. On attend tout le monde, oui, ça c'est clair. Il va y avoir du beau sport
et puis
à la salle Picou.
La finale, samedi prochain, le 3 décembre, à partir de 16h30. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir.
Merci beaucoup.
Merci.
Et nous parlons à présent d'un grand week-end de pétanque qui débute ce soir. Ça va un peu moins vite à Boulary au Mont d'Or. La Ligue calédonienne organise l'international de pétanque Morgan. C'est un événement qui, là encore, avait été mis en sommeil pendant la crise sanitaire.
Et oui, en plus des joueurs calédoniens, on retrouvera une équipe de Nouvelle-Zélande, mais aussi 8 joueurs de Wallis et Futuna, ainsi qu'une trentaine de personnes de Polynésie française. L'international de pétanque fait son retour donc cette année. L'objectif est de faire la promotion de la discipline, comme l'explique Jérôme Carto di Wirigio, le président de la Ligue.
Là, on a décidé de faire cette compétition-là, c'est pour un peu la redynamiser, parce que avec les deux années un peu compliquées qu'on a passées, on a perdu un petit peu de licenciés, entre 15 et 20 licenciés par rapport à l'année dernière, par exemple. Donc là, le tournoi qu'on vous propose, c'est un tournoi ouvert à tous. On a ouvert aux non-licenciés, c'est-à-dire. Le but, après, de tout ça, c'est vraiment faire une vraie promotion de la pétanque et attirer de nouveaux joueurs, hommes, femmes, jeunes. En ouvrant à tout le monde, on se dit, les gens, ils vont venir, ils vont découvrir la pétanque ou ils vont confirmer qu'ils aiment bien cette discipline, ce sport. Et on espère que derrière, ils prendront une licence pour la saison prochaine.
L'international de pétanque vient donc de débuter avec la compétition en individuel. Elle va se dérouler sur 2 jours. Viendra ensuite samedi les doublettes hommes et dames, puis la doublette mixte et une compétition pour les jeunes le dimanche.
Les pages spéciales Coupe du Monde de Football 2022 sur Radio Rythme Bleu avec la Maison de la Clôture. La Maison de la Clôture vous propose un large choix de clôtures made in France. Et Dynatec. Dynatec, le spécialiste des groupes électrogènes et de l'énergie renouvelable.
Allez, direction le Qatar pour terminer cette page sport. Les 4 derniers matchs de la première journée de la phase de poule se jouent ce soir et demain matin, Morgan.
Et dans le groupe G, le Brésil fera son entrée en lice demain matin à 6h. Neymar et ses coéquipiers sont en course pour un 6e titre et ils affronteront la Serbie. Les supporters brésiliens présents en Calédonie sont confiants à l'image d'Elisson Lete da Silva. C'est le chef et co-gérant du restaurant Le Tira de Fuego sur les quais. Mais attention à ne pas se faire surprendre comme l'Argentine ces derniers jours.
Je vois que le Brésil est une grande équipe cette année. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent déjà dans les grandes équipes européennes. Mais il y a aussi des nouvelles révélations qui jouent au Brésil. Et elles sont toutes en forme. Et je vois que ça va être une équipe qui se bat pour gagner cette Coupe du Monde. J'espère que le Brésil joue sérieux, qui ne fait pas les gaffes comme l'Argentine, qui a pensé que les jeux c'était facile. Il n'y a pas de jeux faciles dans cette Coupe du Monde, alors on a besoin de jouer sérieux.
Le restaurant Tira de Fuego qui diffusera d'ailleurs le match demain matin à partir de 6h et qui proposera une formule petit déjeuner. L'autre match du groupe G verra une opposition entre la Suisse et le Cameroun à 21h ce soir. Et puis un autre favori fera son entrée en lice cette nuit dans le groupe H. Le Portugal de Cristiano Ronaldo jouera contre le Ghana à 3h et puis à minuit, l'Uruguay affrontera la Corée du Sud.
Les pages spéciales Coupe du Monde de Football 2022 sur Radio Rythme Bleu avec Dynatec et la Maison de la Clôture. Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Livraison possible sur la Brousse et les Îles. La Maison de la Clôture, 15 rue Einstein à Ducos. Téléphone 74 94 16.
Il est exactement 18h19, on termine ce journal comme tous les soirs avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagée.
Et on vous écoute pour les détails, mon cher Thierry.
Oui, Gilles, il y a une vigilance jaune avec de fortes pluies et des orages. Ce sera pour demain, vendredi après-midi, sur la côte est, au nord de Loyers-Loups, sur la pointe nord, Bellep et les Loyautés, pour des pluies fortes et un risque orageux. Cette nuit, donc, sur la pointe nord, Bellep et aux Loyautés, les nuages domineront et des averses circuleront. Le ciel sera étoilé sur les autres régions. L'alizé de sud-est soufflera autour des 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds, sur les côtes ouest et est. Les températures minimales seront comprises entre 17 et 21 degrés. Voyons voir pour demain matin sur Bellep, la pointe nord, le nord-est et au Loyauté, les nuages resteront nombreux et le temps sera instable avec des averses parfois modérées. Ailleurs, les éclaircies domineront et le temps sera sec malgré l'arrivée de nuages élevés. L'alizé de sud-est soufflera lui entre 10 et 15 nœuds et localement 15 à 20 nœuds sur l'ouest, Gilles.
Merci pour tous ces détails. 18h20, la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.